CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CIUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la semaine de la francophonie de Toronto, beaucoupricho.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de parole, le salon du livre, le Niagara avec Sophie Franc, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Education Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses. Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Attrapez la cosa, attrapez la cosa. Ding et dong.
Non, ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
Okay. Sur les 5 continents, 300 millions de femmes et d'hommes partagent une langue commune. Le français. Cette langue unit les 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Créé le 20 mars 1970 à Niamey, cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service et au cœur des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. Plus de langue française. L'OIF s'engage pour repositionner le français dans tous les secteurs d'activité et les domaines de connaissances, sur la scène internationale, sur la toile, dans les médias, aux côtés de toutes les autres langues nationales qui représentent la riche diversité culturelle de la francophonie. Elle appuie toutes les initiatives en faveur d'un enseignement de qualité du et en français. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille et analyse les données sur le terrain pour les restituer tous les 4 ans dans un rapport, La langue française dans le monde. Plus de culture. L'OIF soutient la formidable créativité des jeunes de l'espace francophone, écrivains, cinéastes, musiciens, plasticiens ou créateurs d'art numérique, permettant une meilleure diffusion de leurs œuvres et l'accès aux marchés internationaux. Elle met en valeur l'entrepreneuriat culturel. Plus de droits. L'OIF travaille avec ses États et gouvernements membres dans une approche préventive. Elle met à leur disposition des outils pour consolider l'état de droit et la démocratie, accompagne les processus électoraux, aide à garantir à leurs citoyens les droits et les libertés fondamentaux. Elle accorde une importance particulière aux droits des femmes. Plus d'éducation. Avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'OIF accompagne ces pays pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des formations professionnelles et techniques qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle met en œuvre des initiatives innovantes pour la formation des enseignants et le développement de l'éducation plurilingue. Plus de développement. L'action de l'OIF est aujourd'hui orientée vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Au plus près des populations, elle mène un travail de terrain pour la lutte contre la pauvreté. L'Institut de la francophonie pour le développement durable soutient les pays membres de l'OIF dans la gestion de leurs ressources naturelles, la mise en œuvre de politiques énergétiques et les négociations internationales sur le climat. Plus d'entrepreneuriat. La stratégie de soutien à l'entrepreneuriat de l'OIF repose sur 4 axes. Déployer des incubateurs dans des secteurs d'innovation et de développement responsable. Promouvoir l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Aider les entrepreneurs à se développer en contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à l'accès au marché global. Mettre en réseau les acteurs pour faciliter l'échange d'expériences. Plus de numérique. À travers le Fonds francophone pour l'innovation numérique, l'OIF propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale, en appuyant notamment les politiques publiques de ces pays grâce à la conception d'applications numériques. Chaque jour, la francophonie se mobilise pour créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès à l'éducation pour toutes et tous, ainsi qu'à l'innovation. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française.
Au départ, c'était vraiment bénin. Là, d'un seul coup, tout s'affole. Et puis, il y a des morts, ça va dans toutes les villes. On a vraiment l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose de grave.
On a une liste d'attente pour les masques. Les gens sont même prêts à prendre des masques qui ne sont pas aux normes.
Les informations qu'on obtient de la part des médias, le nombre de morts augmente, etc. Tout ça, ça fait peur.
Pékin est vide. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gens dans la rue. Donc notre vie se résume à faire l'école, travailler depuis la maison, sortir, acheter un truc à manger.
Édition spéciale sur RFI.
Nathanaël Vitran.
Plus de 600 morts et 30 000 personnes infectées, une vingtaine de pays touchés, des quartiers, des villages, des villes entières placées en quarantaine, les frontières qui se ferment, l'urgence internationale décrétée par l'OMS. Plus d'un mois après son apparition dans le Wuhan en Chine, l'épidémie de coronavirus suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Inquiétude, panique même diront certains. Alors que sait-on du virus? Quels sont les risques? En fait-on trop ou pas assez? Le monde est-il prêt à faire face? Pas de panique ce matin, on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions, à toutes vos questions pour déjà tirer les premières leçons d'une crise mondiale. Soyez les bienvenus. À mes côtés pour co-animer cette émission, Simon Rosé du service France Science de Radio France Internationale, Hermine Roumiac, journaliste au sein de la rédaction chinoise de RFI, également autour de la table Arnaud Fontanet, médecin épidémiologiste, directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur, Frédéric Vagneron, historien spécialiste de l'histoire de la médecine et des maladies infectieuses, chercheur également au CNRS, Jean-Louis Mourier, économiste chez le courtier Aurel BGC, et tout à l'heure nous serons également en ligne depuis Kinshasa avec Jean-Marie Kanyembe, doyen et professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Kinshasa, édition spéciale à retrouver aussi en vidéo sur RFI.fr. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, on va retrouver tout de suite Stéphane Lagarde, notre envoyé spécial permanent à Pékin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, comment ça se passe en Chine? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette épidémie de coronavirus et de l'ambiance à Pékin et ailleurs dans le pays?
Écoutez, moi j'étais pas là en 2003 à l'époque du SRAS, mais c'est en tout cas une Chine que personnellement, en tout cas, je n'avais jamais connue. On parle souvent de ces villes asiatiques grouillantes d'activité et de vie. Et bien là, c'est tout l'inverse. Je vis aujourd'hui dans une capitale fantôme. Pékin se trouve à 2h30 d'avion de l'épicentre de l'épidémie, mais il y a très peu de monde dans les rues ici. Les autorités conseillent de rester à la maison pour éviter toute contagion. Résultat, on a ces blocs d'immeubles qui se barricadent. Les gardiens prennent la température à l'aide de pistolets thermomètres sur le front des habitants à l'entrée. Dans certains ascenseurs, pour décrire un peu à nos auditeurs ce que peut représenter cette peur du virus, dans certains ascenseurs, on trouve parfois des cure-dents ou du papier toilette pour appuyer sur les boutons et pour monter dans les étages. Pourquoi ? Par crainte, encore une fois, d'attraper le virus qui se transmet aussi par les mains, par le contact. Les transports circulent à Pékin, le métro, les bus, mais ils sont vides. Et les grands axes de circulation peuvent servir d'appareil de piste d'atterrissage, vu le peu de voitures. Mais vous le savez, les compagnies internationales n'envoient plus leurs avions aujourd'hui en Chine. Et c'est tout le pays, finalement, qui se trouve un peu en quarantaine. C'est en tout cas l'impression qu'on a en vivant ici, à commencer évidemment par les 70 millions d'habitants de la province du Roubaix, d'où est partie l'épidémie, et qui sont depuis maintenant 2 semaines confinés.
Alors, on va éviter de faire atterrir les avions au milieu de Pékin. Stéphane, est-ce que cette épidémie met le pouvoir chinois en difficulté? Est-ce qu'il est contesté?
Il y a en tout cas de la colère. On a vu ces vidéos diffusées ces dernières semaines par des citoyens, des journalistes, des médecins, montrant combien les services médicaux de Wuhan et de sa région avaient été débordés par l'afflux des malades, le manque de lits, de matériel, de médecins. Ces lanceurs d'alerte sont aujourd'hui les véritables héros de cette bataille contre l'épidémie. Le décès d'un jeune ophtalmologue de Wuhan cette nuit a bouleversé littéralement ici les réseaux sociaux. Tristesse et colère pour ce jeune médecin qui a été parmi les premiers à alerter sur le virus avant d'être sanctionné. Son décès, Nathanaël, à 34 ans, de suite de la pneumonie, a aujourd'hui, en tout cas, incarne le doute des Chinois face aux chiffres et à l'action du gouvernement.
Merci Stéphane Lagarde en direct de Pékin. Simon Rosé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette épidémie de coronavirus?
Eh bien, à près de 31 500 cas confirmés ce vendredi matin, toujours une écrasante majorité en Chine. La courbe de progression de l'épidémie qui conserve toujours cette même dynamique, toujours en hausse. Exemple frappant, on en a parlé dans le journal, c'est 41 nouveaux cas à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large du Japon. Alors même si 28 pays au total ont recensé des cas cette épidémie, elle reste avant tout une épidémie chinoise. Le pays concentre en effet la quasi-totalité des cas déclarés. Des morts aussi, malheureusement, 638 à l'heure où je vous parle. Une seule personne est décédée hors de Chine, c'était aux Philippines. Et en Chine, c'est évidemment la province de Hubei qui est la plus durement touchée, l'épicentre de l'épidémie. 618 personnes y ont succombé au coronavirus. Tous ces chiffres, ce sont ceux actualisés de l'université américaine Johns Hopkins qui réalise un gros travail de suivi de l'épidémie. Il y a certes le triste bilan comptable, il y a également, on l'a entendu avec Stéphane Lagarde, les conséquences sur la vie de tous les jours, avec plusieurs dizaines de millions de personnes en Chine qui se retrouvent aujourd'hui confinées dans des villes coupées du monde à la suite des mesures de prévention prises par les autorités chinoises.
Alors Arnaud Fontanet, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Le coronavirus, en quoi ça consiste exactement? C'est une infection respiratoire comme la grippe?
Alors, ce nouveau coronavirus fait partie d'une famille de virus bien connus. Il y en avait déjà 6 qui donnaient des manifestations respiratoires chez l'homme, 4 relativement bénins avec plutôt des rhumes qui étaient saisonniers, et puis 2 autres, le coronavirus du SRAS de 2003 et puis celui du MERS qui circule dans le Moyen-Orient et qui est transmis par les dromadaires. Et donc c'est le septième qui vient d'être identifié et qui est responsable de cette épidémie. Ça donne effectivement des signes respiratoires de type pneumonie avec fièvre et toux et quelquefois essoufflement sur les formes plus graves.
Et la source donc, ce sont des virus qui étaient présents chez les animaux qui se transmettent tout d'un coup chez l'homme, c'est ça hein?
Alors c'est l'histoire qui se répète par rapport à ce qu'on savait du coronavirus du SRAS, puisque il y a une chauve-souris, le génome de ce nouveau virus est à 96% identique à celui retrouvé chez une chauve-souris du centre de la Chine en 2018. Mais on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, un animal qui est vendu dans des marchés, très vraisemblablement dans les marchés d'animaux de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, puisque parmi les premiers patients, beaucoup d'entre eux avaient des contacts avec ce marché d'animaux. En revanche, on n'a pas réussi à identifier cet hôte intermédiaire. Pour le SRAS, ça avait été la civette palmiste masquée qui était vendue dans ces marchés et restaurants du sud-est de la Chine. Cette fois-ci, le marché a été fermé et on n'a pas de résultat d'investigation, sauf que des prélèvements dits environnementaux dans ce marché ont retrouvé, dans la partie du marché où on vendait des animaux sauvages, ont retrouvé la trace du nouveau coronavirus.
Arnaud Fontanet, pourquoi c'est important pour vous de trouver justement toute cette chaîne de contamination, essayer d'identifier tous ces hôtes différents avant que ça arrive dans la population humaine?
Alors d'abord, c'est important parce que pour le coronavirus du SRAS, en 2003, on a réussi à éliminer le virus de population humaine. L'épidémie s'était arrêtée en juillet 2003, mais surtout, il n'a pas pu être réintroduit à partir de son réservoir animal, puisque les civettes aujourd'hui, elles vivent paisiblement dans les forêts de Chine, et c'est très bien pour tout le monde. Et là, si on trouvait réservoir et puis l'hôte intermédiaire qui ont transmis donc le virus dans le marché de Wuhan, on pourrait interdire sa consommation, mais je pense que les autorités chinoises ont déjà mis un ban temporaire sur la vente d'animaux sauvages dans les marchés, et qu'à l'issue de cette épidémie, des questions seront certainement posées sur la pertinence de continuer de consommer des animaux sauvages quand on voit les conséquences dévastatrices qu'on peut avoir ces épidémies.
Frédéric Vanneron, votre perspective d'historien, ce type d'épidémie, on l'a commencé déjà à l'évoquer, ça n'a rien de nouveau vraiment.
Alors ce qui est sûr, c'est que ces épidémies liées à des relations avec la faune sauvage, c'est des épidémies qui sont connues depuis le 19e siècle, par exemple, qui ont été étudiés. Mais il y a un regain de connaissances sur ces épidémies zoonotiques, ces zoonoses, à partir du moment où on a développé les réseaux de surveillance.
Zoonoses, ça veut dire quoi?
Donc les zoonoses, c'est les maladies qui se transmettent des hommes aux animaux et des animaux aux hommes. Et le développement des réseaux de surveillance, notamment virologiques, vont permettre de voir apparaître ces réservoirs de maladies qui se transmettent des animaux aux hommes, par exemple la grippe. On sait que c'est une maladie zoonotique à partir du dernier tiers du XXe siècle. Et depuis cette époque-là, on a une connaissance de plus en plus fine de ces virus et de ces transmissions entre les animaux et les hommes.
Alors justement, vous évoquez la grippe saisonnière en France fait plusieurs milliers de morts chaque année. Là, on en est à 600 à ce jour. En quoi est-ce que c'est différent et en quoi est-ce qu'on ne peut pas comparer tout à fait ces deux maladies, ces deux virus?
Alors, ce sont deux virus déjà biologiquement totalement différents. Hein. Donc, ils se rejoignent sur la nature des manifestations respiratoires. Hein. Dans les deux cas, on a des pneumopathies qu'on dit d'allure virale. Hein. C'est l'apparence à la radio qui nous fait évoquer ce type de diagnostic. Maintenant, les traitements ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a un traitement pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Il y a un vaccin pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Donc, on est sur des virus qui sont biologiquement très différents.
Hermine Romillac, on a pu l'entendre tout à l'heure avec Stéphane Lagarde. Il évoquait le cas de ce médecin qui avait donné l'alerte avant de perdre la vie. Ça a provoqué beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que les autorités chinoises ont réagi trop tard? Est-ce que c'est ce qu'on entend un peu sur les réseaux chinois?
En fait, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont été alertés par les hôpitaux le début du mois de décembre l'année dernière. Donc, la date exacte, c'est le 8 décembre. Donc, en fait, les médecins dans les hôpitaux ont alerté qu'il y a des virus qui circulent, qui ressemblent beaucoup à SRAS, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc les 8 médecins, dont le médecin qui a décidé hier, a donné l'alerte sur le réseau interne, c'est-à-dire entre les amis, copains de médecins. Donc tout de suite, ça a été étouffé parce qu'ils ont été tous invités à prendre un thé, plus que prendre un thé avec les policiers, les policiers leur sonner de retourner au travail et se taire. guerre. Donc, ils ont signé aussi un papier comme quoi ils vont plus propager des soi-disant fausses nouvelles, fake news, etc. Donc, cette nouvelle, c'est-à-dire il y a 8 médecins qui propagent les fake news, ont été diffusées sur les chaînes de télévision internationales. Donc, c'était des fake news, c'était annoncé par les présentateurs de télé. Donc, du coup, la nouvelle a été étouffée. Et ensuite, le maire de la ville de Wuhan a annoncé plus tard que lui, il a alerté le Pékin pour cette nouvelle, mais il attendait toujours l'ordre d'agir. Donc, en fait, pendant un mois et demi, jusqu'à le 23 janvier, quand Xi Jinping a donné l'ordre d'agir, donc la ville de Wuhan a été subitement mise en quarantaine, vraiment forcée. Mais la nouvelle a été donnée 10 heures en avance de cette fermeture de ville. Donc, selon le maire, il y a 5 millions de personnes ont quitté déjà la Chine, quitté déjà Wuhan, la ville. Voilà. Donc, avec eux, peut-être, il y a beaucoup de porteurs de virus. Donc, est-ce que les alertes des infos ont été étouffées? C'est la cause de cette retard de ce retard de
ce qui pose beaucoup d'interrogations sur les réseaux chinois et auprès des citoyens en Chine, évidemment. Autre conséquence à l'international de cet isolement, c'est la fermeture des frontières.
La Corée du Nord a été le premier pays à fermer sa frontière. Suivent la Mongolie, le Kazakhstan et la Russie depuis hier. À son tour, c'est Air France qui annule tous ses vols pour au moins 10 jours.
Jean-Louis Mourier, en tant qu'économiste, voir qu'un virus puisse avoir de telles conséquences, la fermeture des frontières, les compagnies aériennes qui ne desservent plus la Chine, c'est inquiétant pour l'économie mondiale?
Il y aura des conséquences pour l'économie mondiale. Il y a deux niveaux de conséquences. Le premier, c'est sur l'activité en Chine de la maladie elle-même, puisqu'il y a des gens qui n'ont plus travaillé, etc. Et le plus gros des conséquences, c'est les réactions face à ça, c'est-à-dire les mesures qui sont prises de confinement, les gens ne sortent plus de chez eux, comme disait votre correspondant à Pékin tout à l'heure. Même à Pékin, il n'y a pas un confinement total, mais il y a beaucoup moins d'activités. Faut pas oublier que la Chine est aujourd'hui une économie très intégrée dans l'économie mondiale. On parle de l'atelier du monde, mais c'est aussi un très gros importateur. C'est-à-dire que c'est le premier client de la plupart des pays dans le monde aujourd'hui. Enfin, rappelez que 13% des exportations mondiales vont en Chine. Donc, si l'activité freine beaucoup, ce qui sera le cas au moins au premier trimestre cette année, il y aura des conséquences économiques évidemment importantes.
Est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir, de donner à ce virus une ampleur économique que l'épidémie ne méritait peut-être pas?
L'ampleur économique, on ne la connaît pas aujourd'hui. Elle dépend, c'est pas moi qui ai les réponses à ça. On est, nous, dans une incertitude totale. Ça dépend de combien de temps va durer cette épidémie, combien de temps vont durer les mesures de confinement, combien de temps va durer le blocage économique qui en résulte, en fait. Pour le reste, des entreprises qui avaient arrêté une partie de leur activité ont annoncé qu'elles voulaient reprendre la semaine prochaine. Est-ce qu'elles le feront ou pas? Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui.
Bon, bah, on va attendre de voir comment les choses vont évoluer. Sophie Malibaud nous rejoint en studio. On va le voir, malheureusement, cette épidémie, ça a aussi été l'occasion de nombreuses rumeurs, de fausses informations sur les réseaux sociaux. Qui, Sophie, relaye les théories conspirationnistes?
Alors, beaucoup de théories fumeuses qui circulent, imprégnées de suspicions anti-chinoises, anti-communistes, venant principalement de l'ultra-droite américaine, qui ne vise pas seulement à critiquer la façon dont Pékin gère la crise, mais qui vont beaucoup plus loin. En résumé, on nous cache tout, le virus ne serait pas né dans la nature, mais dans un laboratoire. Il se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan, où se trouve un laboratoire de biosécurité de niveau 4, le niveau le plus élevé où sont manipulés les virus les plus dangereux au monde, SARS, Ebola et autres. Alors c'est irréfutable, le coronavirus est l'invention de scientifiques dans un laboratoire, c'est ce que veut nous faire croire le site pseudo-scientifique anti-vaccin Natural News. Autre exemple, le site Zero Hedge, qui a été brièvement suspendu par Twitter. Ce site a fait circuler sur Internet les coordonnées d'un chercheur de l'Institut de virologie de Wuhan, expliquant comment il a été recruté pour travailler sur la chauve-souris, animal bien connu pour concentration de virus dangereux. Simplement, au lieu de présenter ce scientifique comme quelqu'un qui lutte contre la propagation de ce type de virus, il est accusé comme étant lui-même responsable de la propagation du virus et son laboratoire est incriminé, suspecté de travailler en fait à la fabrication d'armes biologiques. On a même un magazine français, Challenge, qui tombe un peu dans ce registre conspirationniste en évoquant la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan. En fait, ce qui est vrai, c'est que la coopération entre les Chinois et l'Institut Pasteur a fait l'objet d'enquêtes minutieuses pour éviter effectivement que Pékin n'utilise les équipements fournis à des fins offensives. Cette coopération a été lancée en 2004 au temps de Jacques Chirac et le laboratoire a finalement été inauguré en 2017. S'agissant d'un domaine sensible, le fait que des enquêtes soient menées et que l'on prenne des précautions est plutôt chose normale, mais dans le récit complotiste, c'est utilisé pour nourrir le soupçon. Alors l'argument des complotistes, c'est aussi de dire, comme de par hasard, c'est à Wuhan que se trouvent ces installations et c'est là qu'explose le virus, mais en fait, c'est justement parce que c'est dans cette région de Chine qu'émerge un grand nombre de nouveaux virus, que la France et la Chine ont décidé d'y développer ce laboratoire au plus près des lieux d'émergence pour pouvoir séquencer rapidement le virus. Alors autrement dit, le raisonnement complotiste inverse en fait la cause et les faits. Et puis je voudrais ajouter, pour terminer, que dans une tonalité plus ouvertement politique, on a des titres, des sites ultra-droite comme War Room 2020 de Steve Bannon, qui parle de pandémie et de Tchernobyl chinois. Dans la même veine, The National Interest publie un article du néoconservateur Paul Wolfowitz avec ce titre « Le Tchernobyl chinois, le communisme est la raison pour laquelle le coronavirus est si dangereux ». La ligne éditoriale est assez claire. Il s'agit en général de saisir l'opportunité du virus pour enfoncer le régime de Pékin.
Merci beaucoup Sophie Malibaud. Les réseaux sociaux, c'est aussi, on peut aussi y trouver des informations fiables. Ce live, cette édition spéciale à retrouver sur le Facebook Live de RFI. Arnaud Fontanet, je vous voyais réagir, lever les yeux au ciel quand on évoquait cette collaboration entre l'Institut Pasteur et un laboratoire chinois. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et pourquoi, ce que nous expliquait Sophie, pourquoi on s'est installé dans cette région où justement les virus sont susceptibles d'apparaître plus qu'ailleurs.
Alors, c'est vrai que, en fait, il faut revenir à l'épidémie de SARS en 2003, hein, donc, qui avait été très marquante, évidemment, pour la Chine, et la volonté des autorités chinoises, après cette épidémie, de se doter d'un laboratoire qui leur permettrait de travailler sur des virus dangereux, hein, donc de niveau P4. Je pense qu'il y en a aujourd'hui à peu près 30 dans le monde, hein, des P4.
P4, c'est une...
C'est la, dans la classification, c'est celle où on traite les virus qui sont potentiellement les plus dangereux, facilement transmissibles, pour lesquels il y a des mortalités fortes et pour lesquels les moyens de protection ne sont pas simples à...
Mais ce fantasme d'un laboratoire dans lequel on fabrique des virus, ça n'a rien,
après,
rien de crédible.
Donc ça, c'est l'histoire de la naissance de ce P4, et comme vous le rappeliez très bien, il a eu beaucoup de temps a été pris pour s'assurer que toutes les conditions étaient réunies, puisqu'il a fallu attendre 2017 pour l'inauguration de ce P4. Maintenant, ces rumeurs sur des origines, entre guillemets, de manipulation à visée de bioterrorisme ou quoi que ce soit, de virus, on les entend régulièrement à chaque émergence, il n'y a absolument rien de nouveau. Et puis là, on a quand même une explication naturelle, très simple, à l'émergence de ce virus qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a dans la chauve-souris un virus absolument identique et que l'animal hôte intermédiaire est un scénario qui, pour tous les scientifiques, ne pose aucun problème.
Aucun doute là-dessus. C'est bien de le dire très clairement. RFI toujours en édition spéciale jusqu'à 9h. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le mot-clé RFI Matin. Tous nos contenus à retrouver aussi sur RFI.fr, tag coronavirus. Infographie très complète à retrouver en 7 points. Reste avec nous dans une minute, le journal Afrique.
Édition spéciale sur RFI.
Franchement, on a peur et on se dit, on ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. On est tous exposés.
Nous sommes enfermés complètement dans un avion qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Et du coup, nous tous sommes ici, nous tous sommes pas là. Je suis vraiment inquiet.
Parole d'Africain inquiet de cette épidémie de coronavirus. Bienvenue si vous nous rejoignez, RFI, en édition spéciale pendant encore 20 minutes avec nos spécialistes maison, nos invités en studio et également sur les réseaux sociaux, Facebook Live de RFI. Cette édition spéciale à suivre. Avant de vous redonner la parole aux uns et aux autres, on va retrouver tout de suite en ligne Jean-Marie Kayembe, doyen, professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Kinshasa. Bonjour monsieur. Jean-Marie Kanyembe, d'abord, est-ce que votre pays, le continent africain de manière plus générale, est prêt à faire face à une telle épidémie?
Oui, on peut confirmer que nous sommes prêts. On s'y attend, étant donné que tous les jours, on a ces nouvelles alarmantes qui nous proviennent de Chine. Et les médias nous aident absolument à nous tenir prêts pour faire face à une éventuelle invasion du continent par le coronavirus.
Cette réunion à Dakar qu'on évoquait dans le journal à l'instant, elle est utile pour vous, utile de former les médecins, les personnels de médecine, le personnel médical africain à repérer le coronavirus ?
Absolument. Je pense qu'on est toujours un petit peu plus fort en se mettant ensemble, en échangeant les expériences, etc. Le continent est tout à fait servi en cela par aujourd'hui la riposte vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, dans laquelle mon pays s'est particulièrement illustré avec les travaux de recherche du professeur Muyembe éventuellement. Cette réunion est importante et notre pays y participera.
Alors justement, le Ebola, c'est effectivement une autre infection respiratoire, autrement plus mortelle que ce coronavirus. Quelle leçon exactement est-ce qu'on peut tirer de la lutte contre Ebola aujourd'hui, Jean-Marie Kayembe ?
Eh bien, ouais, la lutte contre Ebola a mobilisé le monde international, la communauté scientifique, etc., pour mettre ensemble les efforts en vue d'abord d'un dépistage rapide et d'une prise en charge efficiente, préventive et curative aujourd'hui de la maladie à virus Ebola. Les scientifiques du monde entier, sous l'égide de l'OMS, les leaderships des différents pays, nous sommes, nous, au Congo, à la 10e épidémie de virus Ebola, ce qui nous donne un instant, une longueur, évidemment, une expérience dans la riposte contre cette maladie. Nous mettons ensemble, nous capitalisons toutes les recettes dans la prise en charge, tant pour un diagnostic précoce, mais aussi pour amener à la résilience des populations. Parce que Ebola est aujourd'hui un fait hautement sociologique et culturel.
Arnaud Fontanet, sur cet aspect de la lutte contre Ebola qui peut aujourd'hui donner des outils peut-être aux pays africains et peut-être au reste du monde pour lutter contre cette épidémie de coronavirus.
Alors il est vrai que les méthodes de contrôle de l'épidémie sont similaires. Hein. Donc Ebola, c'est une fièvre hémorragique virale avec des patients qui, dans les phases terminales de la maladie, sont contagieux par en fait tous les fluides corporels qu'ils... la stratégie de lutte, hein, elle est basée sur l'isolement des patients, elle est basée sur le suivi des contacts, sur une durée qui permet de savoir s'ils ont été infectés ou pas, et ce n'est basé aussi sur des restrictions de déplacement dans les zones touchées. Donc on est en fait sur les mêmes schémas hein, de lutte et de contrôle que ce que l'on voit et qu'on penserait mettre en place pour ce nouveau coronavirus s'il devait par exemple arriver sur le continent africain. Pour Ebola maintenant, on dispose aujourd'hui d'un vaccin. Ce n'est pas le cas pour le coronavirus. Et il y a aussi des traitements qui maintenant sont connus comme pour être efficaces pour Ebola. Et la recherche n'est pas aussi avancée pour le coronavirus.
Frédéric Vanneron, sur les enseignements à tirer d'une épidémie à une autre, est-ce qu'on apprend toujours, on a appris du SRAS, on apprend d'Ebola et à chaque fois on développe des outils qui permettent de lutter contre un nouveau virus ?
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a des mémoires qui sont finalement assez locales, puisque tout le monde n'a pas été touché par Ebola. Donc effectivement, au niveau des pays, on se rappelle des épidémies précédentes qui ont été frappantes, à la fois au niveau des autorités politiques et au niveau, par exemple, du corps médical. Et puis plus généralement, il y a un partage d'informations, et ça, c'est véhiculé par des organisations internationales, par exemple. Et là, il y a toute une réglementation qui a été mise en place, et une diffusion de ces informations, notamment par l'OMS, qui existe depuis le milieu du XXe siècle, mais qui a beaucoup développé cette question de l'alerte. C'est devenu un peu son précaré, c'est de l'alerte vis-à-vis des épidémies, et notamment à partir des années 90, il y a une grande rupture finalement qui est la pandémie de sida, qui montre que le sentiment de sécurité qui existait auparavant vis-à-vis des infections, et on parle de sécurité pour les pays du Nord hein, principalement, il y a une rupture qui se passe avec la pandémie de sida et il y a un développement des dispositifs et des infrastructures, avec l'OMS notamment, mais avec l'aide des Américains et des scientifiques, pour justement baliser la possible émergence et réémergence, c'est le nouveau terme, les maladies émergentes et réémergentes, d'événements sanitaires catastrophiques potentiellement. Et donc là, on a une alerte qui va se mettre en place et qui aussi donne toute cette information. Aujourd'hui, tout ce discours aussi sur la peur, il est lié aussi à ce développement de différents types d'informations, y compris du point de vue des États, mais aussi, on l'a vu, des réseaux sociaux et aussi de la presse, de l'information.
RFI, il est 8h46, toujours en édition spéciale, jusqu'à 9h.
Personnellement, je n'ai pas peur parce que je sors presque tous les jours.
mais on essaie toujours de se protéger, surtout éviter les endroits où il y a beaucoup de gens. Actuellement, dans le bus, dans le métro, dans les taxis, il est exigé, obligé à tout le monde d'avoir le masque. Avant de monter dans le bus aussi, il y a un je peux appeler ça thermomètre, on vérifie la température de tous les gens.
La parole d'un Congolais commerçant installé à Canton en Chine. Jean-Louis Mourier, pour l'instant, aucun cas de contamination n'a été signalé sur le continent africain. Mais on sait que les liens entre l'Afrique et la Chine sont très forts aujourd'hui. D'un côté comme de l'autre, là, on entend un commerçant africain installé en Chine. Mais il y a aussi beaucoup de Chinois qui travaillent sur le continent, dans différents pays.
Tout à fait. La Chine a énormément investi ces dernières années dans beaucoup de pays africains. Pour différentes raisons. D'abord, ils ont pris une place qui avait été abandonnée un peu par d'autres. Ensuite, parce qu'ils consomment beaucoup, beaucoup de matières premières et qu'il y a beaucoup de matières premières, notamment minérales, dans les pays africains. Les liens sont évidemment très étroits entre les deux. Ça pose même des problèmes dans certaines villes africaines où des entreprises chinoises sont arrivées avec tous leurs ouvriers sur place pour sans employer de main-d'œuvre locale, et ça a pu poser des problèmes un peu avec la population locale. Mais globalement, on a effectivement des liens très importants. Maintenant, c'est pas pour ça que les conséquences économiques de ce qui se passe en Chine aujourd'hui seront les plus fortes sur l'Afrique. Évidemment. Tous les producteurs de matières premières, africains comme d'Amérique latine, vont être particulièrement affectés par le quasi-arrêt ou le très fort ralentissement de l'activité industrielle en Chine, mais pas plus l'Afrique que le Chili ou la Colombie ou le Pérou, par exemple.
CIUT 89.5, Toronto.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89.5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Allaire. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89.7 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89.5. La radio comme je l'aime.
Je répète.
continue.
Et comme chaque matin, nous commençons avec notre rendez-vous destiné à mieux connaître le Covid-19, un virus très contagieux qui se transmet par gouttelettes de salive expulsées par le malade, notamment quand il tousse. D'où le souci de rester à l'écart des uns des autres et d'éviter autant que possible le contact. Mais certaines interactions sont indispensables, il faut s'alimenter et pour cela faire ses courses de temps à autre. Alors plus précisément, le virus peut-il circuler en suspension dans l'air ? Christine Siebert, peut-on tomber malade en respirant l'air frais ?
Non, on ne peut pas attraper le Covid-19 en faisant sa promenade pour prendre l'air, affirme Patrick Perche, professeur émérite de microbiologie et ancien directeur de l'Institut Pasteur.
C'est surtout l'environnement direct des patients ou des porteurs sains qui est le danger. C'est pas de se promener dehors tout seul où vous pouvez respirer l'air pollué, c'est pas comme ça que ça s'attrape.
En tout cas, la transmission par l'air intéresse les scientifiques. Des chercheurs américains ont récemment montré que le coronavirus peut survivre pendant 3 heures sous la forme de particules suspendues dans l'air. Pour arriver à cette conclusion, ils ont projeté le virus dans l'air avec une sorte de vaporisateur. Mais cette étude ne doit pas alarmer, ces auteurs le disent eux-mêmes, c'est une recherche menée en laboratoire et ce n'est pas comparable avec ce qui se passe dans la vie réelle. D'autres scientifiques en Italie, cette fois-ci, se sont intéressés au lien entre pollution de l'air et propagation du virus et ils sont catégoriques, les particules fines responsables de la pollution jouent un rôle de transporteur du coronavirus. Ils ont entre autres constaté une accélération anormale de l'expansion de l'épidémie dans des régions où l'air avait été très pollué. Une chose est sûre, les particules fines pénètrent dans les voies respiratoires et peuvent entraîner de nombreuses maladies qui rendent les personnes plus vulnérables. Selon l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, la pollution entraîne bel et bien un dysfonctionnement du système immunitaire.
Alors Christine, en attendant d'en savoir plus sur le coronavirus dans l'air, est-ce que le virus peut être présent dans les aliments ?
Oui, à condition, toujours selon l'ANSES, que l'aliment en question ait été manipulé ou préparé par une personne infectée. Mais bonne nouvelle, ce virus résiste difficilement à la cuisson.
Enfin, qu'en est-il des différentes surfaces ? Est-ce que le virus peut y être présent ?
Absolument. Il faut donc en être conscient, par exemple en déballant ses courses, le virus reste présent sur certains matériaux. C'est l'étude américaine dont on a déjà parlé qui le démontre. On écoute à nouveau Patrick Perche.
Le virus survit quelques heures sur du carton, il survit 48 heures sur du plastique et un peu plus encore sur du fer. Voilà.
Et pour finir, on peut a priori continuer à caresser son chien ou son chat. Pour le moment, il n'existe aucune preuve de contamination de l'homme par des animaux domestiques. C'est toujours l'ANSES qui le dit. Et le professeur Patrick Perche le confirme.
Alors, les animaux, il va y avoir des préconisations. En principe, ils ne sont pas dangereux. Il n'y a pas de problème avec les animaux en principe.
Quant aux chauves-souris ou pangolins, c'est une autre histoire. Selon des études récentes, ils pourraient être des passeurs de ce nouveau coronavirus.
Ce matin, Marie, on va parler de récentes analyses qui nous en apprennent un peu plus sur la durée de vie de ce coronavirus.
L'Institut américain de recherche sur les allergies et les maladies infectieuses s'est penché sur la question de la survie du Covid-19 sur différents supports. Commençons par ce que les scientifiques appellent les aérosols, c'est-à-dire les micro-gouttelettes en suspension dans l'air. Le virus peut y être détecté 3 heures après leur projection. Plus simplement, un malade qui éternue ou tousse sans se protéger la bouche, comme il est recommandé, diffuse autour de lui ces fameuses gouttelettes infectées pendant 3 heures. Concernant les surfaces maintenant, la même étude montre que le Covid-19 résiste 4 heures sur du cuivre, 24 heures sur du carton et jusqu'à 2 ou 3 jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Au début de l'épidémie, avant ces nouvelles études, on ne parlait que de quelques heures de survie. D'où l'utilité de désinfecter régulièrement des surfaces comme les poignées de porte, les boutons d'ascenseur ou encore les bureaux d'entreprise, la javel et l'eau et le savon suffisent.
Les scientifiques américains ont comparé ces durées de vie à celles du SRAS. L'épidémie avait affecté plus de 8000 personnes à travers le monde entre 2002 et 2003 et provoqué la mort d'un peu moins de 800 personnes.
La durée de vie des deux virus est similaire, que ce soit dans l'air ou sur les surfaces. Il s'est avéré que le mode principal de transmission du SRAS était les échanges humains, surtout les expectorations, toux et éternuements. Mais le Covid-19 est bien plus contagieux. Les experts n'en concluent pas pour autant que la transmission via des surfaces est plus importante que pour le SRAS. En Chine, une équipe a étudié le cas d'un immeuble où 7 personnes travaillant dans des bureaux différents et n'ayant pas eu de contact direct étaient tombées malades. Leur hypothèse, les toilettes communes pourraient être la source d'infection via de la matière fécale. Il ne s'agit encore que d'hypothèses, mais elles rappellent l'importance de désinfecter les lieux de passage et surtout de se laver les mains et d'éviter les contacts humains.
Et la contagion particulièrement élevée du Covid-19 par rapport au SRAS pourrait être liée aussi, Marie, à sa durée d'incubation.
Oui, parce que si le SRAS n'est transmissible par un malade que 4 ou 5 jours après l'apparition des premiers symptômes, le coronavirus l'est dès le début, dès les premières toux, fièvres ou difficultés respiratoires. Et même parfois, chez certains patients, avant même qu'ils ne se sentent souffrants. D'où la difficulté à enrayer la propagation du virus. La quarantaine, c'est-à-dire dans le cas du Covid-19, 14 jours d'isolement, ne suffit pas à écarter les risques de transmission.
Alors face à toutes ces difficultés, le confinement paraît le moyen le plus efficace pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus.
En Italie, ça y est, la courbe semble s'adoucir. La hausse du nombre de cas est de 13%. Elle était de 19% samedi dernier. Tout le pays est confiné depuis une semaine, mais dans certaines zones qui le sont depuis plus longtemps, 3 semaines au moins, il n'y a pratiquement plus de contamination. En France, les effets ne vont donc pas se ressentir tout de suite. En raison aussi du temps d'incubation de la maladie, il est de 6 jours en moyenne avant que les symptômes n'apparaissent et il peut aller jusqu'à une douzaine de jours. Ce n'est donc que dans un peu moins de 2 semaines que nous saurons si limiter au maximum les déplacements et les contacts a permis d'enrayer la propagation du coronavirus en France.
Merci Marie Casadebé. Ce rendez-vous d'information sur le Covid-19, c'est chaque jour sur RFI.
Aujourd'hui, par la vie, je fais un signe à mon voisin. Je rends l'ennui des séries, je survis à personne autour. Puis lundi, c'est fini, je ne sors que dans mon jardin. Maladie, pénurie, hystérie dès le premier jour. Si on devait se voir demain, eh ben non, on se verra pas demain. Si on devait se voir demain, eh ben non, ça sera pas demain. Toi, tu peux rester là, à 1 mètre de moi, à 1 mètre de moi, juste à 1 mètre de moi. Moi, je peux rester là, à 1 mètre de toi, à 1 mètre de toi, juste à 1 mètre de toi, toi, tu peux rester là. À 1 mètre de moi, à 1 mètre de moi, juste à 1 mètre de moi. Tous ces gens mécontents qui se promènent dans l'espoir, et les autres inconscients qui ne veulent pas y croire. Le bilan s'alourdit, pensez aussi au médecin. Le déni n'empêche pas que ce sera peut-être toi le prochain. Car si tu veux me voir demain, eh ben non, on se verra pas demain. Si tu veux me voir demain, eh ben non, ce sera pas demain. Toi, tu peux rester là, à 1 mètre de moi, à 1 mètre de moi, juste à 1 mètre de moi. Moi, je peux rester là, à 1 mètre de toi, à 1 mètre de toi, juste à 1 mètre de toi, toi. Tu peux rester là, à 1 mètre de moi, à 1 mètre de moi, juste à 1 mètre de moi, moi. Je peux rester là, à 1 mètre de toi, à 1 mètre de toi, juste à 1 mètre de toi. Alors on peut quand même s'appeler, même si c'est vraiment pas pareil. Juste un petit coup de fil à mémé, et de ma fenêtre je prends le soleil. C'est pas trop pour nous emmerder, mais le virus lui est mortel. Alors on voudrait vous remercier, merci à tous les professionnels. Ouais. Et moi, je veux rester là, je reste chez moi, je reste chez moi, oui, je reste chez moi. Et toi, tu veux rester là, tu restes chez toi, tu restes chez toi, oui, tu restes chez toi. Et moi, je veux rester là, je reste chez moi, je reste chez moi, oui, je reste chez moi. Et toi, tu veux rester là, tu restes chez toi, tu restes chez toi, oui,
Je reste chez toi et moi, je veux rester là. Je reste chez moi, je reste chez moi, oui, je reste chez moi.
Bonjour Jean-Hervé Bradol.
Bonjour.
Médecins sans frontières a été en première ligne face aux dernières épidémies d'Ebola en Afrique. Quelle comparaison est-ce que vous faites entre ces épidémies d'Ebola et l'actuelle épidémie de coronavirus ?
Ebola, ça tue beaucoup plus, mais ça s'exprime dans un territoire géographique beaucoup plus limité. Par contre, le coronavirus, finalement, on verra une fois qu'on aura tout recalculé, parce que tous les chiffres qui circulent là sont des chiffres mal construits, donc c'est pour aller vite, tout le monde balance des chiffres. Quand on aura pris du recul, qu'on travaillera avec des définitions standardisées, on s'apercevra que la létalité du corona est pas énorme, mais par contre, le nombre de cas est énorme. Donc, comme le nombre de morts est une proportion du nombre de cas, à la fin, il y a beaucoup de morts. C'est la chaîne du monde. Parce que Ebola, c'est vraiment, pour l'instant, confiné dans une région d'Afrique particulière.
Qu'est-ce qui vous semble être, à l'heure actuelle, le risque le plus important pour l'Afrique ?
Des lits de réanimation dans la plupart des capitales africaines, il y en a très peu. Ça veut dire que tous les cas vraiment graves ne seront pas traités. Ce qu'on peut craindre pour l'Afrique, c'est beaucoup de morts. Donc, ce qui est faisable en Afrique en unité d'hospitalisation pour une partie des malades pas trop graves, c'est de leur donner de l'oxygène, à condition qu'ils respirent, eux, activement cet oxygène. Mais il y a, encore une fois, il y a une partie, une petite partie, mais qui est significative, pour laquelle ce n'est pas suffisant. Il faut les faire respirer de manière mécanique avec une machine.
Est-ce que vous diriez que le diagnostic est général, on manque de ces machines respiratoires sur le continent ?
Alors, bon, il y a des nuances, hein. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Hein. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, il y en a un peu plus que d'autres. L'Égypte, c'est pas le Burkina, il y a une hétérogénéité sur le continent, mais ça va être quand même difficile pour tout le monde. Hein. Difficile pour tout le monde.
Est-ce qu'il y a des solutions alternatives aux machines respiratoires telles qu'on les connaît en Europe ?
Pas tellement pour ce type de malade. Le SDRA, là, le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les lésions des poumons, des alvéoles pulmonaires, celles qui font respirer, sont telles que la ventilation de ces patients, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Hein. C'est pas seulement matériel, il faut des équipes qui sachent le faire, qui ont l'habitude de le faire. Mais il n'y a pas que des malades ultra sévères, il y a des malades sévères tout court. Ceux-là, je pense qu'on peut quand même monter des espaces d'hospitalisation, peut-être des grandes salles communes pour leur donner l'oxygène et puis le traitement médical.
Est-ce que des dispositifs comme la quatorzaine, cette mise à l'écart de 2 semaines, sont des dispositifs utiles, Jean-Hervé Bradol ?
Oui, c'est des dispositifs utiles. La difficulté, c'est que pour être vraiment efficace, il y a besoin de tester un test biologique pour séparer ceux qui ont déjà eu la maladie de ceux qui ne l'ont pas encore eu et de ceux qui sont en train de la faire à ce moment-là, pour pouvoir les répartir dans des espaces où les uns les autres, ils ne s'infectent pas ou ils n'infectent pas les autres. Et pour l'instant, c'est des mesures en France qui sont incomplètes. Donc, elles ont en France et en Italie. À la différence de la Corée du Sud, où les gens testés positifs, finalement, ils étaient hospitalisés, même si c'était pas grave, pour les séparer du reste de la population. Ils étaient hébergés ailleurs. Même s'ils ne présentaient pas de formes sévères, là, on les renvoie dans leur famille. Donc, on peut quand même imaginer qu'il y a... Il y a de la transmission intrafamiliale, pas de test biologique rapide utilisable sur le terrain. Ça rend la politique de prévention moyennement efficace.
Est-ce que dans les pays qui ont connu l'épidémie d'Ebola, vous avez le sentiment qu'on parvient à s'appuyer sur ce qui a été appris au cours de cette épidémie d'Ebola ?
C'est indéniable. Hein. Les gens qui ont participé à la réponse Ebola, ils ont des réflexes un peu généraux sur la réponse aux épidémies. C'est entre guillemets une petite culture professionnelle. Et effectivement, d'avoir travaillé sur les épidémies d'Ebola et sur d'autres épidémies en général, hein, il y a eu une épidémie de choléra assez importante au Mozambique, auquel le gouvernement a très bien réagi d'ailleurs. Les personnels qui travaillent sur la réponse à d'autres épidémies, ils ont une partie de la gymnastique cérébrale qu'il faut pour mener ces activités. Ils l'ont déjà entraîné.
En tant que médecin, Jean-Hervé Bradol, quel conseil est-ce que vous donneriez à nos auditeurs africains ?
De prendre toutes les mesures d'ores et déjà de limitation des contacts. Effectivement, tous les contacts qui ne sont pas absolument nécessaires, petit à petit, vont devenir de plus en plus risqués. C'est pas possible pour tous les membres de la famille, mais pour ceux si c'est possible, c'est de rester à la maison et puis de se laver les mains, que personne ne rentre ou ne sorte de la maison sans s'être lavé les mains. Puis dans le temps de résidence à l'intérieur du domicile, c'est pareil, se laver plusieurs fois les mains, quoi. Se distancier des autres et se laver les mains avec le savon, ça marche très bien, hein. Avec le gel hydroalcoolique, c'est un peu plus confortable, ça évite de s'essuyer, etc. Et tout ça, mais le savon marche aussi bien.
Merci Jean-Hervé Bradol.
Je vous remercie également.
La revue de la presse d'abord en ligne avec Frédéric Couteau. Ce choix, Frédéric, à la une des journaux, génial ou fantasque ?
Un physique de prophète, de gaulois ou encore de rocker, au choix, longs cheveux blancs et barbe fournie. Il est en photo, pleine page, à la une de Libération ce matin, avec ce titre, chloroquine, espoir ou bien mirage. Le professeur Didier Raoult de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille a testé au début du mois ce médicament antipaludéen sur un groupe de malades avec apparemment des résultats probants. Ce médecin, au physique d'arbre raccourci, a transformé son hôpital marseillais en village gaulois, s'exclame Libération, distribuant non une potion magique, mais un antipaludéen, donc, dont il tient qu'il soigne le coronavirus. On a commencé par le prendre de haut, mais avec un coupable retard, on s'est résigné à tester en grand le médicament qu'il a administré, semble-t-il, avec succès à une vingtaine de patients. Sage décision qui devrait mettre fin à la polémique, estime Libération, en espérant que le dissident ait raison, ce qui soulagerait des milliers de malades et des millions de confinés.
Avec sa barbe et ses longs cheveux gris, Didier Raoult a plus le look d'un rocker 68-art que d'un professeur de médecine, c'est ce que relève le Figaro.
Et pourtant, cet infectiologue de renom international est sous les projecteurs, créant l'espoir pour de nombreux profanes. Didier Raoult a dans le même temps soulevé les critiques d'une partie de la communauté scientifique, pointe le Figaro, qui met en garde tant sur les limites de sa méthodologie que sur les effets secondaires toxiques de la chloroquine. Alors, véritable génie pour les uns, donc, et fantasque pour les autres.
Alors, est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? On attend le résultat d'enquêtes complémentaires.
Oui, les instances médicales françaises demandent d'autres validations scientifiques que l'étude marseillaise, jugée trop étroite pour être absolument probante, c'est ce que pointe Sud-Ouest. Et le Haut Conseil pour la Santé préconise de restreindre, au cas grave, le recours à des soins à base de chloroquine. Toutefois, poursuit Sud-Ouest, dans la guerre déclarée contre le virus, le lancement d'études complémentaires montre que la France et l'Europe ne veulent négliger aucune piste, qu'il s'agisse de chloroquine ou d'antiviraux connus, et d'autres actions sont à mener, pointe le journal. Elle consiste à appliquer ici les recettes qui ailleurs font reculer la maladie. C'est notamment le cas des tests à grande échelle qui permettent d'isoler en amont un maximum de porteurs du virus et d'en freiner la propagation. La Corée du Sud a brillamment mené cette politique et en Allemagne, elle semble porter des fruits en limitant pour l'instant le nombre de décès.
En effet, relève la croix, l'espoir est permis.
La vie reprend peu à peu en Chine et en Corée du Sud. Touchée par l'épidémie du coronavirus depuis décembre dernier, la Chine a enregistré hier lundi aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, note la Croix. Globalement, l'optimisme revient donc. Nous n'avons pas de nouveaux cas ici depuis 20 jours, assure ce docteur en médecine traditionnelle interrogé par le journal. On commence à reprendre une vie normale, au point que certaines personnes sortent dehors sans porter de masque, ce qui donne confiance. Le gouvernement l'a autorisé seulement pour les sorties en plein air, précise la Croix. Les journaux télévisés diffusent quotidiennement des images de Chinois heureux de respirer à nouveau, libérés de la menace du virus. Pour ce qui est de la Corée du Sud, note encore le quotidien catholique, le pays a donc réussi à maîtriser la propagation du Covid-19 grâce à des dépistages massifs, 338 000 au total, ce qui permet d'identifier tôt les porteurs du virus et de les isoler, un port du masque généralisé et des efforts monumentaux de traçage de chaque personne infectée, notamment par le bornage des smartphones.
En tout cas, note Le Monde, dans le combat mondial contre la pandémie, aucun gouvernement n'a encore la formule magique.
Oui, un devoir d'humilité s'impose donc avant de juger de la supériorité d'une tactique sur l'autre ou de débattre a posteriori du bien fondé de telle ou telle décision, affirme Le Monde. Dans les situations de crise, les dirigeants politiques doivent trancher entre des avis parfois contradictoires, prendre des décisions rapides, sans disposer nécessairement de toutes les informations ni de tous les moyens dont ils auraient besoin. Ce n'est qu'avec le recul que l'on pourra analyser ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné dans ce combat mondial. En attendant, les opinions publiques, de plus en plus inquiètes, conclut Le Monde, ont besoin de confiance.
La revue de presse avec Frédéric Couteau à 7h15 sur RFI.
Professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa.
Quelles sont les mesures, professeur, prises par les autorités de RDC face au risque d'épidémie de coronavirus?
Oui, la première mesure promulguée par le chef de l'État a été celle d'éviter les grands rassemblements. En cela, les écoles, les universités, les églises sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et la plupart d'institutions, notamment les hôpitaux, ont limité le travail à des horaires de crise, donc des horaires tout à fait restreints. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que la ville la plus touchée aujourd'hui, c'est Kinshasa, a demandé une certaine régulation du nombre de passagers à bord de transports en commun. Si la chose se poursuivait, on arrivera peut-être à réduire le plus possible ces transports en commun.
En quelques secondes, quel message prioritaire à faire passer à la population au Congo aujourd'hui?
Renforcer les mesures d'hygiène simple, le lavage des mains. Éviter de serrer les mains, de s'embrasser, de la promiscuité. Se tenir à distance et demeurer le plus possible chez soi. Voilà, laver les mains au savon, l'eau et le savon, et solution hydroalcoolisée, il y en a. Voilà les mesures les plus importantes.
Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe. Je rappelle que vous êtes également doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Priorité Santé vous retrouve tout à l'heure pour parler des perturbateurs endocriniens et en direct un mercredi pour parler des soignants face à la pandémie. Pour nous rejoindre, bien sûr, la page Facebook de l'émission.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now with Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO. Le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto. La chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo. Les éditions prises de parole. EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Mes chers compatriotes, dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
Attention, c'est l'épidémie coronavirus. Coronavirus.
Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Michael Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est peu dire qu'il va nous manquer avec sa grande silhouette et son crâne lisse, son sourire franc et son rire communicatif si caractéristique. Avec son saxophone qui a accompagné l'Afrique et le monde pendant plus de 60 ans, 60 ans pendant lesquels il n'aura eu de cesse de rencontrer, de marier, de faire partager les notes et les rythmes d'Afrique et d'ailleurs. On disait même de lui qu'il était l'inventeur ou le précurseur de ce qu'on aurait appelé la world music. Bref, c'est une légende de la musique qui vient de nous quitter, fauchée par le Covid-19. Manu Dibango, un très grand monsieur que nous avons reçu il y a quelques mois à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Nous vous proposons aujourd'hui de réécouter cet entretien que toute l'équipe de VMDN gardera longtemps en mémoire et que la Terre lui soit légère. Manu Dibango.
Bonjour cher ami.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour fêter ces 60 ans de carrière. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous entendez un tube comme Soul Makossa? Qu'est-ce que vous ressentez?
C'est une question un peu difficile parce que je l'ai tellement entendu, finalement j'ai fini par la connaître. Je me demandais d'ailleurs pourquoi ce morceau avait du succès. Quand on a commencé à me poser des questions, je me posais moi-même la question parce qu'en fait, ça faisait un bout de temps que je ne jouais pas ce morceau. Donc, je suis parti dans ma discothèque chercher pour savoir quelle est la substantifique morale qu'il y avait dans le... Et avec le temps, on apprend à certaines choses sur une chanson. On ne sait pas tout au même moment, d'ailleurs. Hein.
Mais c'est vrai que ce succès, il n'était pas forcément programmé, parce que c'est une face B. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir sorti un disque sur lequel la face B a eu autant, voire plus de succès que la face A. La face A, c'était l'hymne de la Cannes,
c'est ça,
la Coupe d'Afrique des Nations, la 8e au Cameroun.
C'est ça, oui.
Et la face B, alors, comment est-ce qu'elle vous est venue, cette face B? C'était parce qu'il fallait trouver un morceau pour la deuxième face, ou il y avait réellement un vrai projet artistique à la base?
Non, il n'y avait pas de projet artistique, heureusement d'ailleurs.
Il faut se méfier des projets artistiques.
Il faut se méfier des projets en général. Quand on fait la musique, le morceau sur lequel en général on compte, c'est pas forcément celui-là qui gagne l'esprit du public, hein, parce que en fait un tube, c'est ce que vous voulez dire, un tube, c'est pas vous qui faites le tube, c'est le public. Sinon, vous allez au studio tous les jours, hein, je veux dire. Il y a plein de morceaux que vous faites, mais le public, à un moment donné, si ça doit arriver, et là, c'est un conte de fées, si ça doit arriver, eh ben, c'est le public qui décide que c'est celui-là. Voilà. Donc, après, vous commencez à analyser pourquoi pas les autres.
Alors, vous avez eu la réponse maintenant, avec le temps qui passe?
Oh, il y a plusieurs réponses. C'est un puzzle, hein. C'est un puzzle. Il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a le moment où ça a été fait. Il y avait un besoin de ça à ce moment-là en même temps. Et tout ça, ça doit arriver au même moment, au bon moment.
C'est une question d'opportunité.
C'est ça, donc.
De hasard, presque.
Moi, je dirais un conte de fées parce que le hasard, je ne sais pas. Je pense que c'est, je pencherai sur l'opportunité, moi.
Alors, on va juste réécouter quelques notes, cette phrase musicale. Alors, je ne sais pas quels sont les faits qui se sont penchés sur votre berceau et sur votre disque à ce moment-là, Manu Dibango. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces notes-là, à cette mélodie-là, à ce thème-là?
Ben, on ne sait pas. Voilà, ça c'est une question très intéressante. Est-ce que vous êtes propriétaire de vos idées?
Oh là là, je vois à quoi vous faites référence. Vous faites référence vous à Michael Jackson.
Non, c'est pas
Rihanna,
ça.
Parce qu'il y a beaucoup d'imbroglio autour de.
Ce que je veux dire, que quand une idée vous arrive, est-ce que vous êtes propriétaire ou bien elles arrivent sur vous et pas sur quelqu'un d'autre?
Oui.
À ce moment-là, vous êtes capteur de quelque chose. Mais est-ce que vous êtes propriétaire de ce que vous avez capté? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Hein. Mais le fait est que elle vous arrive à ce moment-là parce qu'il y a un concours de circonstances. La batterie, par exemple, il y a deux batteries là. Pourquoi? Parce que l'afterbeat, on n'arrivait pas au studio à avoir l'afterbeat qu'on voulait. Donc il fallait doubler l'afterbeat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le batteur, il est gaucher, donc il n'a pas la même attaque que quelqu'un qui est droitier. C'est ça, la deuxième chose. La troisième chose, c'est que la basse, il fallait, je me satisfaisais pas, moi, d'une ligne de basse qui n'était pas doublée en tierce. Ça donnait une épaisseur à ma rythmique. La quatrième chose, c'est qu'il y avait l'arrivée de la wawa. À cette époque-là, il y a eu Shaft avant, et la wawa amenait un son qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de clavier là-dedans. Il y a juste la wawa qui est rythmique et mélodique. Alors ensuite, il y a donc un arrangement sur les cuivres, et puis il y a le thème qui arrive naturellement.
Est-ce que vous êtes un mélangeur, Manu Dibango?
Est-ce que vous marieur. Êtes
un marieur, voilà. Parce que là, on a à la fois de la musique traditionnelle, ouais. Voilà, et puis on a la soul music américaine.
Ouais, disons que je suis simplement musicien et que je fais de la musique sur l'environnement dans lequel je me meus. Je n'entre pas en studio en disant « Ah, je suis musicien camerounais, machin ». J'ai pas cette prétention. La prétention que j'ai, moi, c'est d'être musicien d'origine camerounaise.
Alors, quand on entend le nom de Manu Dibango, on pense à Makossa, évidemment. Il y a eu un avant et un après?
Forcément, parce que avant, vous êtes simplement, quand même, vous êtes musicien, puis chef d'orchestre. Et puis après, vous devenez bankable. Donc, voilà. Vous entrez dans une autre catégorie.
Voilà. Et puis, donc, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, ces accusations de votre part de reprise, de plagiat, Michael Jackson, Rihanna. Il y a eu des mots, il y a eu un appel à la justice. Vous avez trouvé.
C'est pas une accusation, c'est un fait.
Voilà, il y a qu'à écouter, voilà. Quoi. Enfin bon, vous n'êtes pas allé au bout du procès. Il y a eu un arrangement financier. Hein?
Quincy, c'est un arrangeur. Moi, j'ai fait un arrangeur aussi.
Voilà. Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été volé, Manu Dibango?
Très bonne question. Il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses. J'ai été reconnu. J'étais connu avec ce morceau, j'ai eu du succès, moi, dans les années 70, et puis Michael Jackson est venu, il a fait renaître le morceau différemment, et ça a été le morceau qui a été le plus vendu au monde avec les 35 millions de disques. Donc forcément, il a amené ce morceau ailleurs. Alors plus ou moins, légalement, ça c'est un autre problème, mais bon, on ne plagie de toute façon que ce qu'on aime, et ce qu'on a écouté. Et pendant très longtemps, nous, on pensait qu'ils ne nous écoutaient pas. Jusqu'au moment où ce truc est arrivé, on s'est rendu compte que eux aussi, ils écoutent ce que nous faisons. Donc il y a une reconnaissance qui ne passe pas toujours par les canaux normaux, mais il y a reconnaissance.
Alors on pense à Makossa, quand on entend le nom de Manu Dibango, je le disais, on pense aussi à votre compagnon de scène le plus fidèle, on pense à votre saxophone. On se dit que vous êtes né avec lui, et en fait, pas du tout. Avant le saxo, il y a eu d'autres instruments de musique, Manu Dibango.
Il y a eu la flûte en bambou d'abord à la maison.
Oui.
Il y a eu l'harmonica, que mon père m'avait acheté, mais voilà. Et puis ensuite, il y a eu la mandoline, parce que c'était l'instrument le moins cher, que je pouvais trimballer partout. Et puis ensuite, il y a eu le piano. Il y a beaucoup d'instruments qui passent. En fait, un musicien, il essaye beaucoup de choses peut-être, parce que les instruments sont des véhicules nobles, évidemment, de la pensée. Mais vous cherchez votre voix, et apparemment, la voix qui émerge le plus avec moi, c'est le saxo. Mais j'aime aussi le vibraphone, j'aime l'orgue. J'ai été longtemps organiste de Nino Ferrer, d'ailleurs.
Vous êtes Comment est-ce que le saxo s'est-il imposé? C'est lui qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi, Manu Dibango?
Vous me posez des drôles de questions quand même ce matin. Parce que ce sont des questions que je me pose. D'abord, c'est un instrument que j'aime physiquement. Je trouve que cet instrument est sexy.
Ah, oula, les courbes sexy du saxo.
Voilà,
de Manu
donc
Dibango.
Je regarde les vitrines et l'instrument qui me meut le plus, quand je regarde les instruments, la trompette, le trombone et tout ça, c'est l'instrument qui, les boutons, les nacres et tout ça, je trouve ça joli. Deuxième truc, élément, j'ai pas d'argent pour l'acheter, mais j'aime l'instrument, j'aime le son. Troisième élément, je reçois un saxo comme prête. Quatrième élément, je le rends jamais. Et puis cinquièmement, donc je le coltine, le temps de faire connaissance. Ça n'a pas été une affaire foudroyante au départ, hein. Ça me chatouillait tout ça, mais comme je suis un peu têtu, j'ai un peu forcé le truc. Finalement, on s'est trouvé bien ensemble, effectivement. Est-ce que c'est lui qui est venu? Est-ce que moi, je crois que chacun a fait un pas vers l'autre.
Alors, il y a aussi un autre instrument hein, dont vous continuez à jouer, c'est évidemment votre voix.
Oui.
Vous avez commencé à chanter dans la chorale de votre maman, à Douala.
C'est ça, à Douala.
Au temple,
ma famille est maternelle et paternelle, étaient protestants. Ils aimaient la chorale. Ma mère, qui était couturière d'abord, elle, à ce moment perdu, si je peux dire, elle dirigeait la chorale chez nous. Et puis, il se trouve que mon oncle paternel, le grand frère de mon père, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Hein, parce qu'on était, à un moment donné, on était Allemands quand même. Et donc, il jouait l'harmonium. Alors, vous voyez, des deux côtés de la famille, il y avait quand même de Rémy. Hein.
Et à l'école, vous chantiez aussi?
Ah voilà, à l'école.
L'école française, donc vous chantiez la variété française?
Je chantais ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait, c'était la variété, forcément. Hein. On n'écoutait pas la musique anglaise dans un pays francophone. À l'époque, on était colonisé d'abord. Pendant longtemps, moi, je suis parti de la maison sous la colonisation. Les indépendances sont arrivées en 60. Moi, je suis arrivé en 49 ici. Donc, on était encore, la mère patrie, tout ça.
Ouais. Et donc, vous montez sur un bateau, le Hogar, direction la France.
C'est ça.
Pour continuer vos études. Vous passez donc de Douala à Saint-Calais. Alors, Saint-Calais, je ne sais pas si tout le monde sait précisément où c'est. Même en France, c'est dans le département français de la Sarthe.
C'est à 20 kilomètres du Mans.
Voilà. Et votre instituteur s'appelle Monsieur Chevalier.
Mon correspondant. Parce que pour venir en France à cette époque-là, il fallait avoir une famille qui acceptait, non pas de vous adopter, mais de vous recevoir dans la famille.
De vous héberger.
De m'héberger et tout ça. Et donc la famille qui a accepté, ça a été la famille Chevalier, dont le fils était instituteur.
Et vous offrez au Chevalier 3 kilos de café.
Oui, parce qu'à l'époque, le café, on en avait en abondance, la France zéro. Hein, c'était Topinambour et Co. ici. Et donc, amener le café à une famille française, c'était un cadeau, et c'est les parents qui envoyaient. Il se trouve que, par contre, le café qui se vendait en commerce se vendait par 3 kilos.
Ouais, et 3 kilos, c'est le titre que vous avez choisi de donner à votre autobiographie, hein, que vous avez publiée à la fin des années 80, c'est-à-dire que cette arrivée en France, c'est un moment fondateur, un moment décisif dans votre vie artistique et dans votre vie tout court.
Mais on change de monde. On sort d'un pays colonisé, on arrive dans le pays qui vous a colonisé. Et vous n'avez pas affaire à des colons. Vous avez affaire à des individus normaux qui vivent dans leur pays. Le français lambda qui n'a rien à voir avec un colon. Donc c'est un changement de monde, c'est un changement de vision. Et puis vous avez 15 ans. Vous n'êtes pas... Vous commencez les pas dans la vie. Donc c'est beaucoup de choses à la fois et c'est les moments de solitude parce que vous êtes dans un coin, Saint-Calais, c'était un village. Ils avaient vu que peut-être les tirailleurs sénégalais ou plutôt les MP américains qui passaient, qui étaient noirs, mais il n'y avait pas de noirs dans le coin. Et je vous garantis que essayer d'aller en Afrique quand vous avez 15 ans, un blanc au milieu des noirs, qu'est-ce que ça doit donner? Eh ben, mettez ça de l'autre côté, un noir. Quand parmi les blancs, qu'est-ce que ça donne?
J'ai caché.
Un des plus grands succès de Sidney Béchette, visité par notre invité d'honneur d'aujourd'hui sur RFI, Manu Dibango, à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Vous lui avez consacré un album en 2007 à Sidney Béchette, clarinettiste mais aussi saxophoniste. Manu Dibango, Béchette, c'est un musicien qui vous a accompagné au fond toute votre vie.
Eh bien, figurez-vous que dans les années 50, au Vieux Colombier, nous on l'a connu en chair et en os, on allait danser au Vieux Co, comme on disait.
Ouais, donc à Paris, ça se trouve à côté de l'église Saint-Sulpice.
Voilà, avec Claude Luther, dans un premier temps, et puis avec Réveillotti dans un deuxième temps, et puis avec les Maxime Souris et tout ça, l'époque de Saint-Germain, et donc j'ai connu plein de Noirs américains, mais lui, il vivait en France.
Vous lui avez parlé à Sidney Béchette?
Ben oui, comme tout un élève, on n'était même pas étudiant, on était des élèves. Hein. Dire aller voir un monument comme lui, c'était assez impressionnant quand même.
Comment est-ce que vous avez découvert le jazz? Avec Béchette?
Naturellement, c'est venu naturellement d'ailleurs, parce que dans les églises protestantes, en fait, beaucoup de musiciens américains commencent par là aussi. Hein. Et alors, on a le même répertoire. Seulement chez nous, on le chantait en douala, le répertoire, mais c'est du Bach, du Handel, du Beethoven qu'on chante dans les églises. Nous, on pensait que c'est notre musique, puisque c'est là qu'on chantait.
Mais la musique, elle appartient à tout le monde, on est d'accord.
Oui, mais à cette époque-là, le jazz vient naturellement après, parce que vous entendez ça, et puis il y a des trucs que vous avez déjà entendus, Armstrong et tout ça, ça vous attire. Bon, j'étais beaucoup plus attiré par cette musique à cette époque-là que par rapport à la musique latino, que par ailleurs j'aimais et que j'aime toujours. Mais j'étais plus attiré par cette musique-là.
Premier disque de jazz que vous avez acheté?
Alors, voilà, c'était à Château-Thierry. Hein, ça, c'est dans l'Aisne, non? Tous les copains avaient un Tepaz. Moi, j'en avais un aussi. Donc, on était une bande de gens qui aimaient le jazz. Et puis, il y avait un magasin de disques. Et comme tout le monde avait acheté des disques, moi je voulais un disque aussi, je suis allé au magasin. Et le dernier disque qui restait de jazz, c'était Duke Ellington.
Morning Glory.
C'est ça.
Alors vous allez écouter évidemment le jazz, vous allez aussi en jouer, hein, piano, saxophone, notamment dans les bars, les cabarets de Bruxelles, notamment dans le cabaret des Anges Noirs.
Ouais.
C'est là que vous rencontrez Coco, qui va devenir votre épouse. C'est là que vous avez aussi croisé Lumumba, Kalongi, Mobutu, les dirigeants du futur Zaïre, hein, qui étaient
table ronde
à Bruxelles pour négocier l'indépendance de ce qui était alors le Congo belge. Mm-hmm. Vous étiez vous aussi transporté par l'aspiration à l'indépendance des peuples africains à cette époque-là? Est-ce que vous étiez engagé?
Pas du tout. Alors, j'étais engagé dans la musique. ça m'est arrivé vraiment comme ça arrive. J'étais pas du tout dans... J'avais des copains qui étaient militants dans des choses politiques et tout ça. Ça ne m'a jamais attiré. Et alors, figurez-vous que à Bruxelles, il y avait un monsieur qui s'appelait Bomboko, un étudiant, un des rares étudiants, parce que les Belges ne voulaient pas de Congolais en Belgique. Mais il y a des curés qui ont fait venir deux ou trois étudiants congolais à Louvain, à l'université et tout. Et ces étudiants, le samedi, ils venaient à Bruxelles dans les boîtes. Bien, et nous on travaillait là, donc on payait le Coca-Cola à ces étudiants. Et puis un jour, je vois un des étudiants qui est devenu ministre des Affaires étrangères à côté du roi Baudouin. C'est là où je me suis réveillé, j'ai dit, tiens, c'est pas possible, c'est ce gars-là à qui je payais le Coca-Cola, il est devenu ministre, et la politique a commencé à m'intéresser à cette époque-là, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aux anges noirs, donc il y a les politiques, notamment congolais, il y a aussi un musicien, un très grand musicien congolais, Kabasele, le grand Calais, le père de la musique congolaise moderne, qui venait d'ailleurs enregistrer à Bruxelles l'indépendance tcha-tcha.
Exact.
Qui va devenir un peu l'hymne de l'Afrique
indépendante
des années 60. On vous entend pas sur ce titre.
Non, parce qu'il y avait pas d'instrument avant. Mais j'étais au studio et tout ça. Et puis un concours encore de circonstances. On parlait de ça tout à l'heure. Ben écoutez, il est venu. Son saxophoniste qui devait venir enregistrer était malade. Bon, ben voilà, donc...
Il faut le remplacer. Il y a quelqu'un qui sait jouer du saxo dans le coin.
Qui convenait, en tout cas. Voilà, c'est tombé sur moi, et puis voilà, il y a beaucoup de succès avec ces disques-là.
Énorme, une quarantaine de titres enregistrés, énorme tournée en Afrique. Et dans cet ensemble musical, donc il y a évidemment énormément de musiciens et de grands musiciens. Il y a aussi, par exemple, Taboulé Rochereau.
C'est ça, il y a le docteur Nico, okay. Oui, Rochereau, Deschaux, le frère de Nico, il y avait du monde quand même.
Qu'est-ce que vous gardez justement de ce succès énorme de cette tournée à travers l'Afrique, l'ambiance qui régnait à cette époque?
Ben, je garde le fait que j'ai eu la chance, parce que finalement, le destin, il arrive, c'est lui qui décide pour vous, parce que j'ai fait un remplacement comme... Je faisais des remplacements. Écoutez, à cette époque-là, je jouais donc aux Anges Noirs, mais il m'arrivait de jouer avec Beko, parce que Beko était en tournée dans les grandes, on appelle ça les grandes Belgiques, les boîtes, les grands théâtres à Bruxelles. Il avait besoin d'un saxophoniste. Je me faisais remplacer 2 heures, comme la Belgique n'est pas grande.
Non.
J'allais faire le truc avec lui, je revenais. Donc j'étais un peu le musicien un peu amovible dans l'affaire, donc le saxo, et puis j'ai amené le piano, par contre, dans la musique africaine à cette époque-là, donc avec Kabasele, beaucoup de morceaux qui ont eu du succès, c'était avec le piano, au moment du cha-cha-cha d'ailleurs. Et voilà, donc il suffisait d'être musicien et d'être là au bon moment.
Ouais, ça a l'air extrêmement facile avec vous, mais on a un petit doute quand même, Manu Dibango. Alors vous vous installez en tout cas à Kinshasa, enfin à l'époque on disait Léopoldville,
oui.
C'est bien ça.
Le twist, j'ai fait le twist à Léopoldville.
Ah bah voilà, ça tombe bien, on écoute tout de suite.
Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oui, mon corps balance. Ah, quand j'entends le twist. Allez, allez, allez. Mettez à Kalina, de la cible à part en ville, vous osez, on danse le tuyau, allez pour vivre. De l'hippopo à Kalina, vite, de la cible à la pergola, vous osez, on danse le tuyau, allez pour vivre. Aïe, aïe, aïe. Thank you.
Alors, racontez-nous, Manu Dibango, parce que ça, c'est quand même pas banal. Comment est-ce que vous avez pu avoir l'idée de faire danser le twist à Léo, de faire danser le twist à Léopoldville? Vous aviez un peu perdu la tête?
Pas tout à fait, la preuve. Non, mais parce que le twist pour les jeunes était partout. Hein, que les disques de Bob Azam, à l'époque, qui avait fait le premier twist d'ailleurs, hein. Amen, voilà, c'est arrivé jusque là. Donc, il n'y avait pas de twist africain. J'ai dit, ben, pourquoi je faisais pas un jeu, hein, je veux faire un truc là-dedans. Et puis, j'ai fait un twist naturellement, parce qu'il n'y en avait pas.
Voilà, et ça a marché.
Et ça a marché, parce que tout autour de moi, il y avait la rumba. Hein, c'était la rumba qui était reine. Donc, ce genre de musique, par contre, les jeunes les dansaient, mais ils n'avaient pas ça en disque.
Énorme succès, hein, donc dans le futur Kinshasa à Léopoldville, à ce moment-là, Manu Dibango. Donc ça a marché, hein, on vient de le
ouais,
dire. Vous êtes le plus congolais des musiciens camerounais ou le plus camerounais des musiciens congolais?
Ça dépend comment on le prend, de quel côté. J'étais les deux.
Parce qu'à ce moment-là, au Cameroun, ça se passe quand même moyennement pour vous.
Ben, ça
vous
se
êtes
passe
beaucoup
pas
plus
du
à l'aise
tout.
Au Congo. Hein.
Non, mais ça se passe pas du tout, tout simplement, parce qu'il y avait la guerre civile, tout simplement, et que c'était pas le bon moment d'aller s'installer, et tout le monde rentrait, en fait. C'était le moment des indépendants, chacun rentrait au prorata de ce qu'il avait fait comme étude et tout ça. Et bon, il y a des ingénieurs, il y a des toubibs, il y a des pharmaciens, il y a des avocats, il y a tout ce monde-là. Et puis moi, je rentrais comme musicien pour faire mon boulot de musicien. Et puis il se trouve que c'était pas une priorité à ce moment-là. La guerre civile, il fallait faire la paix, il fallait créer le Cameroun fédéral et ensuite le Cameroun uni et tout ça. Donc c'était pas le bon moment. Tandis que musicalement, c'était le bon moment d'être à Léopoldville.
Alors, vous créez votre premier big band en 1967, Manu Dibango, et un jour, à la télévision française, on entend ça.
Toronto.
Cette année 2020, c'est le 50e anniversaire de la francophonie. Aux sources de la francophonie, quelques personnalités audacieuses et déterminées, issues des indépendances, se sont révélées visionnaires. Senghor, le Sénégalais, Bourguiba, le Tunisien, Diori, le Nigérien et le roi Sihanouk du Cambodge. Aux sources de la francophonie, en 1970, sur les bords du fleuve Niger, 21 dirigeants des 5 continents ont scellé une entente pour inscrire leur pays, ses mosaïques de langues et de cultures, dans un vaste mouvement de coopération internationale. Aux sources de la francophonie, il y a donc un idéal de solidarité partagée grâce à la langue française. Le pari était risqué. 50 ans après, on peut dire que le pari est largement gagné. 50 ans après, des liens aussi solides qu'inédits se sont tissés entre les peuples francophones autour des valeurs communes. 50 ans après, la langue française, ce ciment de notre organisation, est devenu le ferment d'actions multiples dans des domaines de plus en plus élargis. 50 ans après, 88 États et gouvernements très divers dialoguent sur un même pied d'égalité dans le cadre d'un projet politique qui transcende les frontières géographiques et les intérêts géopolitiques. Un projet dont les acquis sont certains, mais qu'il convient de redéfinir pour l'inscrire résolument dans l'avenir et lui permettre ainsi d'affronter avec succès les 50 prochaines années, au moins. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, la langue française, qui est au cœur de notre action, doit mener notre jeunesse à la réussite. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il nous faut œuvrer davantage ensemble pour les valeurs constitutives de notre identité, le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons une organisation caractérisée par la bonne gouvernance et qui participe au bon équilibre entre tous les États membres. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il faut recentrer la coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux. L'éducation de qualité pour toutes et pour tous, la fin de la fracture numérique, la prospérité partagée et compatible avec un développement durable respectueux de la planète. La francophonie de l'avenir est donc un salutaire retour aux sources, c'est ce resserrement autour des priorités fondatrices et l'adaptation aux défis du monde actuel qui nous permettront d'être plus pertinents et plus efficaces et partant d'aller plus loin et de voir plus grand. Alors, êtes-vous prêts pour ce nouveau départ?
Tropica. Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie.
Le soir, c'est couleur tropicale.
Les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Que la lutte libère.
Couleur tropicale, musique, musique, musique.
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Manu Dibango nous a quittés. En ce 24 mars, nous pleurons sa disparition. Le coronavirus a emporté l'une des personnalités les plus emblématiques de l'Afrique des indépendances, l'Afrique de tous les talents, l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Le coronavirus n'a pas épargné Manu Dibango, comme il n'épargnera pas les plus fragiles d'entre nous. Le coronavirus va changer nos vies. Il a déjà changé nos vies. La disparition de Manu Dibango a valeur de symbole. C'est un électrochoc afin que nous réagissions et luttions ensemble en s'affranchissant des frontières territoriales, ethniques et religieuses. En 2019, pour ses 85 printemps, à l'initiative de RFI Musique, du service communication de RFI, nous avions réalisé une grande interview pour Couleur Tropicale. Retour sur la vie et l'œuvre d'un des plus extraordinaires artistes que l'humanité ait connu. Hommage à Manu Dibango.
Yeah.
Makossa, 1972. C'est tube et c'est culte.
Dis donc, toi l'invité. Okay. Claudie va te poser des questions.
Okay.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses.
Alors, Bango, merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, Claudie, ben, merci de m'avoir invité.
Hein? 85 ans, 60 ans de carrière. Alors, d'autres artistes hein, ont une vraie longévité hein, dans leur vie artistique.
Oui.
Mais rares, très rares sont ceux qui ont une telle image, devenue une véritable marque. Es-tu conscient, aujourd'hui, Manu Dibango, d'être un personnage totémique, une figure emblématique?
Totémique, j'aime bien ça, je ne connaissais pas.
Mais oui.
Tu sais, c'est Molière qui fait la prose sans savoir. Moi, je suis de cette époque-là. La musique, j'ai toujours aimé. Je n'avais pas, Claudie, j'ai jamais eu de plan de carrière. Je t'assure, je suis entré dans ce métier. On aurait dit qu'il y a une force qui me poussait vers l'inconnu. Je ne savais rien et je ne sais toujours rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis encore en vie et que j'ai toujours la passion du métier.
Alors, j'ai presque envie de dire à tous les jeunes artistes, à toutes les personnes passionnées par un métier, dans un domaine quel qu'il soit, envie de dire qu'en réalité, la passion peut vous mener jusqu'au bout, là où vous n'imaginiez même pas aller, là où d'autres aujourd'hui font souvent des plans de carrière en se disant « je ne fais pas ça parce que si je fais ça, ça va altérer mon image ou atteindre à mon image ». Toi, à aucun moment tu n'as pensé à ça?
Ah ben non, parce que déjà, vu l'époque, je sors d'un pays où on était peut-être pas colonisé, mais c'était pareil, sous mandat, c'est pareil, où le métier de musicien n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient la musique, on les appelait pour animer les mariages ou les déjeuners, on te donnait une pièce. Bon, bref, la seule musique qui existait, qui était noble, c'est Alléluia. Le restant, c'était...
Bah, tu as baigné dans cela par ta mère, ton père.
Mais mon père et mon oncle, en fait, mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Hein, parce que, bon, il n'y a pas longtemps que... On est français, les gens ils oublient ça, les Sénégalais, ça fait 4-5 siècles qu'ils avaient à dealer avec la France, le Cameroun a dealé avec la France à la Première Guerre mondiale, donc c'est hier.
Ben oui, puisque à la fois entre l'Empire ottoman qui perd toutes ses possessions et l'Allemagne qui est défaite, qui perd également ses possessions en Afrique.
Donc c'était un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, le genre de ce que moi je fais maintenant n'existait absolument pas.
Ouais.
Et mes parents m'envoient ici faire des études entre guillemets sérieuses. Qu'est-ce que je fais? La musique.
Ben, justement, ton papa décide, lui, de te couper les vivres lorsque tu échoues au baccalauréat.
Deuxième partie. J'avais la première partie. La deuxième partie, j'étais parti en Espagne avec des copains. Donc voilà. Bon, bref, j'étais parti. Quoi faire en Espagne? La musique. Donc, quelque part... C'est la musique qui me poussait. Et voilà, quoi. Tu sais, des fois, tu ne sais pas exactement. Vraiment, dans mon cas, hein, je n'ai pas su. J'ai eu des copains, j'ai eu des opportunités. Ah, par contre, il faut avoir la chance de pouvoir saisir les opportunités. Parce que je suis arrivé ici comme citoyen de l'Union française. Il n'y avait pas encore d'immigration. Les émigrés, c'était les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Nous, on était français, puisqu'on sortait de l'Empire français. Donc, on pouvait aller n'importe où en France, et on n'avait pas de problème. Les problèmes ont commencé à partir de 1960, quand les indépendances sont arrivées. Donc, on était Sénégalais, Camerounais, Congolais, et tout ça, avec des passeports différents. Mais nous, avant, on avait des passeports français.
Quel souvenir gardes-tu de cette France des années 50, justement?
Ben, c'est une France qui sortait de la guerre, où toutes les familles avaient donné leur sang, y compris les bataillons africains. Donc il y avait de la fraternité dans l'air, il y avait une renaissance, si je peux dire, la renaissance de la France, qui sortait donc de l'occupation, qui sortait du pétainisme aussi, parce que tout ça, ça allait ensemble, hein, voilà, et qui était curieuse de connaître l'autre, donc que ce soit les Africains, que ce soit les Antillais, que ce soit les Vietnamiens, qu'on appelait d'ailleurs Indochinois. Si je te montrais, Claudie, les photos d'école, tu serais ahuri de voir le nombre de Noirs qu'il y avait dans les lycées. D'ailleurs, quand on parle du panafricanisme, c'est ici que ça a commencé, c'est pas en Afrique.
Et c'est souvent ce que je dis aux uns et aux autres. Beaucoup de gens ne le savent pas, merci.
Aux États-Unis et ici.
Exactement.
Parce qu'on ne se connaissait pas. On se connaissait par un bouquin qui s'appelait Mamadou et Binetta. Hein, ça, c'était la Bible de toutes les colonies. C'est là où on apprenait le Dahomey, le Madagascar et tout ça. Mais on ne se connaissait pas. Les transports déjà dans nos pays. Hein, aller de Douala à Yaoundé, c'était une aventure. De Grand Bassam à Abidjan, c'était une aventure. Voilà. Donc, personne ne... Et c'est quand on est arrivé ici que par affinité, par feeling, on a commencé à se connaître. On avait des copains ivoiriens, des copains sénégalais, des copains camerounais. Et c'est là qu'on a commencé à parler du continent. Parce que quand tu es en Afrique, à cette époque-là, tu n'es pas africain. Tu es camerounais. Tu es sénégalais, tu es nigérian et tout ça. C'est la notion de l'Afrique du continent, pour des gens de mon âge en tout cas, c'est ici.
La grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé, avec du bon foufou. C'est ça la vie au village. Et la nuit s'étend sur le village. Sur le village. Sur le village.
On va revenir sur ceux qui ont été avec toi scolarisés en France. Je pense à Francis Bébé.
Oui.
Je pense à Moyebé Ndedi.
Oui, c'est lui qui m'a prêté le saxo.
Tu t'as prêté le saxo. Et
ce
Francis.
Que j'ai jamais payé d'ailleurs.
Et Francis qui t'a initié quand même aussi au jazz. C'est lui qui t'a. Qui t'a... Toi, tu aimais
oui,
le jazz.
Oui, Francis était mon héros. Hein. Alors, ça, c'est les colonies de vacances. Nous avions donc pour les Africains. Il y avait des colonies de vacances, c'est là où, tout, justement, on parlait du panafricanisme tout à l'heure, mais le lien, c'était les colonies de vacances où tous les Africains se retrouvaient, des fois c'était à Nancy, des fois c'était à Saint-Germain, en l'air, des fois c'était à Aix-en-Provence, enfin, tous les étés, les Africains qui étaient là, qui étaient élèves, même pas étudiants, là, donc se retrouvaient là. Et donc, ces groupes-là ont été les ferments de la connaissance de l'Afrique. Voilà. Donc Francis Bébé est arrivé en colonie de vacances avec une de mes cousines qu'il a épousée d'ailleurs. Jusqu'à la veuve, elle est là. Et Francis jouait la guitare et il était notre maître. Vraiment, on jurait, on dormait, Francis Bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. Mais en l'air, il y avait le jazz aussi dans les boîtes et tout ça. Mais nous, on n'était pas tellement boîtes. On était dans les colonies, mais il y avait les boîtes en l'air. Hein. Je veux dire, il y avait le tabou, il y avait le caméléon.
Oui, à Paris, le tabou.
À Paris, mais c'était pas loin de Saint-Germain
oui,
en l'air.
Oui, oui.
On allait de temps en temps écouter les ciné Béchette et tout ça. Oui. On a eu cette chance-là.
Et la canne à sucre, il y avait...
Alors là, ce de côté-là, il y avait le Blomé.
Oui, le Blomé, oui.
Là, il y avait le petit balcon,
oui.
Il y avait la canne à sucre, il y avait le bikini.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'était le côté antillais. Et c'était terrible parce que cette musique-là, elle nous touchait plus d'ailleurs parce qu'il y avait des rythmes que les Américains n'avaient pas.
Alors Manu Dibango, tu n'as jamais fait de politique et
si, culturel.
Oui. Alors de politique politicienne.
Non.
Et pourtant ton histoire musicale est rythmée par, j'ai envie de dire, ou c'est ta musique qui a rythmé les indépendances, l'émancipation de l'Afrique. 1957, c'est une année importante pour toi. Le Ghana accède à son indépendance,
oui.
C'était le 6 mars.
Bon,
et toi, tu te maries avec oui. Marie-José,
avec
que tout le monde appelait Coco, que tu avais rencontré
bon,
un an
hein.
auparavant.
bah oui,
parce que pour nous qui aimons ton histoire, pour nous, bah, Coco, c'est un personnage important.
C'était la Belgique,
histoire.
Ça.
Ouais.
J'ai épousé la Belgique et du coup, plus tard, le Congo.
Ouais.
Parce que qu'est-ce que un noir francophone à l'époque, qu'est-ce qu'il avait à faire avec le Congo, Léopoldville? Rien. Sinon d'aller habiter Bruxelles à cause de pas mal de trucs et puis de rencontrer les Kabasélé et tout ça.
Alors, Raconte-nous déjà cette année, 1956, tu joues, tu commences à jouer dans les clubs, tu es, j'ai envie de dire, un musicien parmi tant d'autres, avec son talent.
Mais je suis un Ivoirien.
Alors raconte-nous.
Fax Clark. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que Keita Fodeba, il a fini ministre de la Guinée, d'ailleurs assassiné. Keita Fodeba était le premier ici dans les années 50 à monter un ballet africain et à faire le tour de l'Europe. Et dans ce ballet, il n'y avait que des étudiants, finalement, qui avaient une vague idée, d'ailleurs, de la danse africaine. Il y avait des Antillais dedans. L'essentiel, c'était d'être noir, parler français et faire le tour de l'Europe. Et là-dedans, il y avait un Ivoirien, Fax Clark, il y avait un gars de la Casamance, Fonseca. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont quitté le ballet. Ils ont monté deux clubs privés avec des Belges. Fonseca, il était en haut de la ville. Fatlak était au bas de la ville. Et quand j'ai eu mon aventure là, je suis allé à Bruxelles pensant que j'allais continuer les études. J'ai fait d'autres études finalement, les études de la nuit, quoi. Et donc...
Les anges de la nuit,
c'est ça,
les
anges noirs. D'ailleurs, voilà, d'ailleurs, le club s'appelait les anges noirs. Et donc, j'ai commencé à jouer là, la vie était belle, j'ai connu ma femme, enfin, tout allait bien, j'étais musicien, non pas parce que j'étais spécialement africain, mais parce que je faisais l'affaire, quoi. Il y a ça aussi, il ne s'agissait pas d'être juste africain, Bataboudila et tout ça. Bon, et ensuite, nous arrivons aux années, on arrive aux années 60, c'est la table ronde, c'est les indépendances et tout ça.
Tous les acteurs politiques qui seront au premier plan lors de l'indépendance du Congo, fréquentent les clubs. Ils fréquentent les clubs. Et j'ai envie de dire que presque la politique du futur Congo, du Congo indépendant, se joue là, dans les clubs. Les uns les autres se rencontrent, se discutent. Et toi, tu assistes à tout ça.
Ben, les Congolais ont toujours fait ça. Alors, chez eux, la politique se discute toujours dans les boîtes. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont continué leur histoire. Simplement, il n'y avait que deux boîtes, quoi. Et notamment, les anges noirs de Fonseca, c'est là alors que tout le monde, les Lumumba, les Kalonji, en fait, tous les gens qu'on cite dans Indépendant Tcha-Tcha.
Tchombé, tout ça.
Tchombé, Moïse, on a connu tout ce gars-là. Kabasele arrive dans les valises, en fait, de Lumumba, parce que c'est Lumumba qui a amené... Calais, le Grand Calais et l'orchestre, c'est la première fois qu'un orchestre africain d'ailleurs venait en Europe et enregistré dans les conditions optimales que tu as en Europe, quoi. Là aussi, l'opportunité, c'est que Kabasele, il fréquentait la boîte et lui, son saxophoniste, c'était malade. Voilà l'opportunité. Ouais. Donc toutes les séances là, y compris Indépendant, Tcha-Tcha et tout, j'étais dedans.
Indépendance, Tcha-Tcha, Tosumiye, Motikwaza.
Donc, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un personnage totémique et ça te faisait sourire, rire même, ton célèbre éclat de rire. C'est cette aventure-là congolaise, bruxelloise, qui te mène après, avec Coco, vous êtes au Congo, vous êtes à Léopoldville.
Oui, d'où twist à Léopoldville, d'ailleurs, j'ai fait un twist.
Aïe, 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 aïe.
Et le produit qui chasse là maintenant, bon, évidemment, toujours saisir le truc, j'étais parti pour un mois parce que le club dans lequel je jouais fermait au mois d'août. Et je reste 2 ans.
Vous montez un club, Coco et toi?
Toujours pareil, au produit. J'avais un copain qui était le premier banquier congolais, il s'appelait Dokolo. Dokolo, c'est lui qui a épousé la fille d'ailleurs.
Oui, alors c'est le Dos Santos, son fils a épousé.
Voilà, tu vois un peu. Et de Santos que j'ai connu aussi, terrible guitariste d'ailleurs, en dehors de ça, hein, parce qu'il venait faire le bœuf, il était réfugié déjà politique. Nous, on ne savait pas spécialement, mais il venait dans la boîte tous les jours, il faisait le bœuf. Ouais. Plus tard, sa fille, la milliardaire en question, elle épouse Dokolo.
Ouais.
Il a toujours essayé, cherché à me voir parce que son père lui avait parlé de moi tellement. Finalement, on se voit. Voilà. Donc, opportunité. Hein, au pluriel.
Léopoldville, 2 ans. Le club s'appelait Afro Negro.
Avenue Général de Gaulle.
Ah, c'est pas mal. C'est
non,
pas
mais
mal.
Tu vois, quand tu parles d'ambiguïté,
oui, ben voilà.
Hein, qu'est-ce que De Gaulle il fait à Léopoldville?
Oui. Il y a d'autres villes et capitales africaines qui te reçoivent. Je pense à Abidjan.
Oui, alors Abidjan, je connais Abidjan en 60 parce que j'ai été le premier musicien non ivoirien à jouer pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Et d'ailleurs, là, j'ai eu ce qu'on peut avoir de mieux pour moi. J'ai été intronisé par le maire de Cocody. Il y a eu 6 chefs traditionnels et un roi. Alors là, je vais te dire que, Claudie, des décorations, tu en as, on en a au monde, mais c'est là qui vient de. Là. Merci.
Tu es un témoin important de cette Afrique qui s'éveille et de cette Afrique éveillée avec tous ses travers, avec ses défaites, mais avec ses victoires aussi.
Oui, il y a de belles histoires, ça c'est une belle histoire ça.
Mais c'est une magnifique histoire. et justement, tu n'es pas qu'un artiste musicien. Effectivement, c'est le cœur de ton existence, mais tu es également un homme de télévision, tu es un homme de radio, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi un homme de télévision? Ben, ça nous ramène à Pulsation, ça nous ramène...
Oui, Légitimus.
Avec Egésip Légitimus.
Et là, encore, il y a une histoire. Quand je suis parti du Cameroun, je suis arrivé à Paris, puis je fréquentais les boîtes pour chercher du boulot, hein, bêtement. Je suis tombé à la Bohème, j'habitais pas loin, dans le 14e. Et à la Bohème, il y avait un entier dont je me souviens plus du nom, un terrible baryton. Il est décédé maintenant. On est devenus copains. Et lui, il devait partir pour des raisons de famille. Et il m'a confié la direction de l'orchestre de la Bohème. Donc je deviens chef d'orchestre. Et là, je vois passer les Monk, je vois passer les Errol Garner, je vois passer tous les jazzmen. Pourquoi? Parce que la boîte, elle appartenait à la femme de Bud Powell, le pianiste. Voilà. Et là, un jour, Légitimus Jésus, l'oncle de Pascal, donc, hein, il vient me voir. Il dit, écoute Manu, je monte une émission de télévision. C'était en 67. J'aimerais que tu viennes avec moi, que tu diriges un peu l'orchestre. J'ai dit, mais comment quoi, diriger? Il n'y a pas... Il dit, mais écoute, j'ai été voir tous les gars ne voulaient pas parce que le chef d'orchestre gagne toujours un peu plus. Mais dans cette émission, tout le monde gagnait pareil. Et les gars ne voulaient pas. Donc, en désespoir de cause, il est venu me voir. Mais moi, j'ai vu qu'avec cette histoire-là, ça me permet d'écrire la musique, d'avoir un orchestre que je n'ai pas à payer, enfin bref, d'avoir une vie. Voilà.
Il y a un autre homme qui compte dans ton histoire d'homme et dans ton histoire de télévision également, c'est Hervé Bourges.
Hervé, c'est toujours un ange gardien que tu ne sais pas que tu vas rencontrer. Tu sais, j'ai rencontré Hervé au Cameroun. Hervé venait d'ouvrir l'école de journalisme, l'ECJ, la première école de journalisme en Afrique au Cameroun. On est devenus copains, c'était dans les années 70, 74, 75. Je rentrais des États-Unis, je faisais des va-et-vient, puis on est devenus copains. Et puis, ça a été toujours un grand journaliste, de toute façon.
Oui,
hein,
oui c'est un
avec
journaliste.
Une histoire terrible avec les Ben Bella et tout
ben
ça.
Oui, ben oui, la dépendance de l'Algérie, lui, il était voilà, aux côtés voilà. De ses... Oui, oui.
C'est un battant, lui. Ouais, hein, ben. Il a toujours été un homme d'État, il a toujours été travaillé pour son pays. Donc on est devenu copains et puis par la suite, il a dirigé l'école du journalisme de Lille. Il a eu l'opportunité de diriger la radio RFI. Oui. Et ensuite, il était à l'UNESCO d'ailleurs.
Oui.
Hein? Et puis, patate, bam, il devient patron de la télévision française, donc officielle. Et là, il monte toute une équipe autour de lui. Je faisais partie naturellement, mais je dis bien naturellement, de son équipe. En même temps, Jacques Lang est arrivé, en même temps, Tonton est arrivé. Et voilà encore une opportunité d'ouvrir les antennes, d'ouvrir la France à autre chose que le système anglo-saxon. Hein? Découvrir des musiques qui viennent d'ailleurs, déjà de la Méditerranée, là, qui était là, et les personnes le connaissaient. On connaissait un tout petit peu des musiques, disons déjà des Caraïbes, mais ça, c'était exotique. Voilà. Découvrir les Tourekunda, les Morikanté, tout ça, ça a été en même temps.
Ouais. Oui, c'est mieux les années 80,
c'est ça.
Ce qu'on appelait l'époque de la world music et tout cela.
C'est ça, on croyait d'ailleurs que ça allait être éternel, qu'on croit l'éternité aussi a des limites, quoi.
La formule.
Alors, donc on a eu une émission qui s'appelait Salut Manu pendant 2 ans et ma foi tout le monde est passé. Je vois tous ces gens là qui ont réussi là, les Obispo qui avaient beaucoup de cheveux à l'époque d'ailleurs, hein. Tout ce monde est passé, les Bernard Lavillier, enfin tout le monde est passé dans cette émission, hein, où la règle du jeu c'était pas de faire sa promo mais c'était de jouer les chansons des autres en direct. Avec Ernesto Tito Puente, décédé il y a 3 ans, qui lui dirigeait l'orchestre qu'on avait monté ensemble, et moi j'étais ce que toi tu sais faire. Moi je l'ai fait un tout petit peu pendant 2 ans, et puis voilà, c'était des bons moments, quoi.
Et nous on te regardait à la télévision en
vrai. Ben, ouais, mais toi, tu étais...
Ben, j'étais jeune, hein, et je voilà. Me disais, un jour je rencontrerai Manu Dibango. Alors je vais t'expliquer pourquoi. J'évoquais la bohème tout à l'heure. Mon grand frère, paix à son âme, la première fois que j'ai entendu parler de Manu Dibango et qu'à la maison on écoutait les disques de Manu Dibango, c'était par mon grand frère qui lui avait fréquenté la bohème et qui et c'est pour ça. Et dans ton répertoire, sa chanson préférée qui est devenue ma chanson préférée, c'est le titre New Bell qui sortira un peu plus tard.
Qui sortira plus tard,
mais c'est New Bell. Voilà. Donc ceci expliquant cela.
Don't tutu, bibem, minam, naminam. Geba nebese, bese, bamada, bese, bada kuwe na. Kokona, baba bebona. Dane bisona bisoba na mutala asiti be Afrika.
Mese, 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 mese